Un énième massacre vient de se produire en Méditerranée, le dernier d'une très longue série qui ensanglote les mers. Encore une fois, des voix de piété se sont élevées de toute la société civile. Encore une fois, des cœurs de mépris se sont élevés du côté des différentes forces politiques. Encore une fois, journaux et télévisions se sont férocement déchaînés contre le racket qui organise les dénommés voyages de l'espoir et contre les passeurs sans scrupules. Encore une fois, des êtres humains, en quête d'une existence plus digne, ont perdu la vie. Tous s'émeuvent, mais détournent en même temps l'attention en évitant de pointer les véritables responsables de ces tragédies qui se succèdent tout autour de nos côtes. Et même lorsqu'il n'y a pas d'exécutants directs, les commanditaires de ces homicides sont faciles à identifier. Il s'agit des États, des dirigeants et des organismes préposés à leur défense et sous leur tutelle. Chaque fois qu'un être humain meurt dans ces conditions, les coupables sont les États qui ont érigé des barrières pour repousser les déshérités qui tentent de franchir leurs frontières. Les coupables sont les dirigeants qui ont tissé des accords bilatéraux pour condamner les pauvres à mourir dans leur pauvreté et dans leur pays d'origine. Les coupables sont les armées qui exportent la guerre et la mort dans de lointains pays pour s'emparer, contrôler et exploiter leurs ressources. Les coupables sont les forces de police qui s'emploient à repousser, chasser et capturer ceux qui fuient ces pays. Les coupables sont enfin ceux qui s'occupent ici d'enfermer ces hommes et ces femmes en attendant de remplir un avion ou un bateau pour les renvoyer vers l'enfer qu'ils ont fui. Nous ne savons pas combien de temps encore nous devrons pleurer, mais nous savons que nous sommes fatigués de le faire. Et nous savons aussi que se limiter aux larmes et à la compassion ne servira pas à éviter que beaucoup d'autres morts suivent celles de ces derniers jours. Il faut s'activer concrètement pour mettre fin à tout cela. Briser l'imbroglio derrière lequel il cache la vérité, gueuler de tout notre souffle ce que sont réellement pour nous les États et les gouvernants, des assassins. Voilà, c'est un texte qui est tiré d'un bouquin qui s'appelle Les Indésirables. C'est un bouquin qui revient sur les luttes contre les centres de rétention en Italie. Et du coup, c'est un texte de 2004, mais qui est terriblement d'actualité.
Alors les baleines disparaîtront-elles avant les baléares ? Curieuse préoccupation et pourtant, peu faut sans dire que c'est économiquement une question importante. Alors est-ce que ce serait possible de contrecarrer l'augmentation du niveau de la mer, due à la fonte des glaces, par l'anéantissement des baleines et autres mammifères marins ? Ou alors d'amener la glace sur Mars pour y créer la vie par exemple ? Bon, là, j'exagère un peu. Mais bon, peut-être on pourrait pallier la montée des eaux en dessalant la mer pour arroser le désert. Ah, ça se tient. Désert, eux, naissant dû au réchauffement de la planète. Ou voir, si on est encore plus visionnaire, ne pas attendre qu'elle fonde, comme ça, elle est déjà dessalée, puisque de toute façon, eh bien, elle va fondre. En plus, quand elle aura fondu, ou si on l'enlève avant, eh bien, il paraîtrait qu'en dessous, il y ait du pétrole, encore. Et au sud, des terres, encore. Parce qu'encore aussi, il y a forcément des pessimistes qui disent, qui pensent que nous allons vers une catastrophe climatique. Sans se rendre compte que pour le coup, justement, ce n'est pas une catastrophe économique. Au mieux, quelques regrets pour les baleines, oui. Donc baleines, fuyez ce monde, il n'est pas fait pour vous. Bon, j'avoue, ne pas regretter les dinosaures, alors pour ce qui est des baleines, bouh. Pas plus que d'ailleurs les baléares ou les vestiges de palmyres. Donc il vaudrait mieux définir ce que c'est qu'une catastrophe. Aujourd'hui, on nous dit qu'on cirait la branche sur laquelle on est assis. Mais avec un peu d'optimisme, on peut dire que ce sera que pour mieux s'envoler. Parce que les baleines, on s'en bat la race, enfin l'espèce. même quand elles s'échouent sur une plage, de nos vacances. Alors encore une fois, je suis dur avec les baleines. Mais la mémoire collective me désole tellement, car quand j'entends parler de catastrophe, je pense à une, moi, oui. À peine 10 jours d'un élan pour Elan, et déjà on ferme les frontières. Et encore. Et encore, on entend parler de tsunami migratoire, et que la catastrophe, ce serait de se faire envahir. Là, la catastrophe, c'est la bêtise. Parce que si on nous parle tout le temps de catastrophe, eh ben, on nous parle de catastrophe politique, climatique, technique, industrielle, naturelle. Catégorie de catastrophe qui classerait les bons des mauvais, les recevables des infréquentables, du migrant, du réfugié, du clandestin. Comme si, quoi qu'il arrivait chez eux, certains prendraient le risque de mourir dans un voyage terrible, de finir dans des camps ou des centres de rétention, et tout ça pour toucher le RSA et ou voler des autoradios. Alors soyons un peu sérieux. Toutes ces personnes qui fuient chez eux, c'est déjà une catastrophe. Et que l'on ne nous explique pas avec des raisons tantôt climatiques, tantôt de guerre, tantôt économiques. Et cela, les réfugiés économiques seraient les pires. Alors que leurs guerres sont économiques, que la catastrophe climatique est économique, que la catastrophe alimentaire est économique, que la catastrophe sanitaire est économique, que les catastrophes géopolitiques, c'est économique, et que la guerre est économique. Et que la catastrophe, en fait, c'est l'économie. Car ce ne sont pas nos papiers gras, ni les paix émis par les vaches, ce ne sont pas nos déchets alimentaires en tonnes qu'on jette dans les pays riches, ni l'eau potable dans laquelle on chie dans nos toilettes, car ce n'est pas parce qu'on ne met pas sa ceinture sécurité qu'on baisse sans capote, parce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas assez laver les mains, et ce n'est pas non plus parce que certains mangent trop gras ou boivent trop. La catastrophe qui a lieu, quelque part, c'en est même plus vraiment une, tant elle est orchestrée. Alors oui, les glaciers vont fondre. Oui, l'air va être de plus en plus pollué. Et l'eau potable va se faire rare. En parlant d'eau d'ailleurs, oui, les migrants vont continuer tant à se noyer qu'à arriver jusqu'ici. Pendant que d'autres mourront de soif là-bas, loin d'ici. Et oui, les guerres vont continuer. Car tout cela n'est pas, comme je le disais, une catastrophe, mais de l'économie. Et aujourd'hui, de gauche comme de droite, et même à ses extrêmes, personne ne veut en finir avec l'économie. Personne ne veut finalement en finir avec la catastrophe. À part peut-être la catastrophe.
À décrire cette catastrophe en cours. On va parler un peu des chiffres qui nous révèlent un peu ce que sont les politiques migratoires. Ce sont des chiffres qui datent donc de l'an dernier, 2014, donc évidemment, ils ne vont que croissant de manière exponentielle. Donc en 2014, sur quelques 358 000 demandes d'asile effectuées dans l'Union européenne, il faut savoir que plus de la moitié ont reçu une réponse négative. En France, le chiffre a atteint les 70% des demandes. Ainsi, en 2014, donc en France, sur les 64 811 demandes d'asile étudiées, mais donc rarement accordées par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, la plupart venaient principalement de la République démocratique du Congo, ou encore de Chine, du Bangladesh, de Russie et aussi de Syrie. Alors, quelles sont les raisons avancées lors des refus de demandes d'asile ? On nous explique que pour les personnes venues du Caucase ou du Sud-Caucase, donc Azerbaïdjan, Géorgie, etc., les autorités prétextent que les conflits sont généralement éteints, que les choses se sont apaisées, ce qui est loin d'être toujours le cas, par exemple, en Tchétchénie. On indique donc aux demandeurs de se rapprocher des autorités de leur pays ou de pays plus proches culturellement. Pour l'Afrique, c'est assez variable, ça dépend des accords. Voilà ce que nous explique une fonctionnaire. Ça ne marche pas par exemple avec des Soudanais, parce que si vous ne venez pas du Darfour, vous n'avez pas automatiquement besoin de protection, sauf par exemple si vous êtes un opposant politique ou un homosexuel, explique pour sa part le patron de l'OFPRA. Alors si le nombre de refus de demande d'asile, c'est des nombres qui sont assez parlants, les chiffres des personnes qui sont elles rejetées hors des frontières européennes sont carrément criants. Ainsi en 2014, 112 362 migrants se sont vus refuser d'entrer dans l'Union européenne et 157 324 ont été expulsés hors de l'Union européenne. Beaucoup d'entre eux ont été enfermés dans des camps, dans des prisons pour étrangers, situés à l'extérieur comme à l'intérieur de l'espace Schengen. Ainsi, les associatifs du réseau Migreurop recensent près de 400 prisons pour étrangers en Europe et dans les pays frontaliers qui collaborent directement avec les politiques migratoires de l'Union européenne. Certaines de ces prisons renferment plusieurs centaines de migrants dans le même établissement, comme c'est le cas par exemple dans l'enclave espagnole de Ceuta, au Maroc. Alors, en 2014, en France, près de 50 000 personnes ont été boutées hors du territoire, dont 43 300 et quelques par le biais de ce que la justice nomme des éloignements forcés, des expulsions, donc. Les personnes enfermées dans les lieux de rétention administrative appartiennent à plus de 160 nationalités différentes. Il existe 26 centres de rétention sur l'ensemble du territoire français, auxquels il faudra encore rajouter un certain nombre de locaux de rétention administrative. En 2014, en France, 49 537 personnes, parmi lesquelles 5 692 enfants, ont été enfermées dans ces prisons pour étrangers. Plus de 30% d'entre elles y restent entre 30 et 45 jours. Certaines y sont enfermées à plusieurs reprises. Pour plus de la moitié d'entre elles, cela se passe dans l'outre-mer, principalement à Mayotte, où plus de 20 000 migrants ont été enfermés en 2014, dans des conditions d'incarcération qui sont encore plus dures que celles des CRA de métropole. Par ailleurs, 48% des personnes enfermées dans ces derniers, donc en métropole, sont expulsées, contre 65% en Guyane et en Guadeloupe, ou encore 92% depuis les locaux de rétention administrative de Martinique et de Saint-Martin. Alors on voit que la vague d'indignation qui a été suscitée par cette photo de l'enfant syrien, Aylan, ne s'est pas étendue à ce qui se passe sur le littoral du 101e département français. À Mayotte. En 1974, l'archipel des Comores dans l'océan Indien accède à son indépendance. Mais la France maintient Mayotte dans son giron. Et en 1995, le gouvernement Balladur instaure l'obligation d'un visa qui supprime la liberté de circuler entre Mayotte et le reste de l'archipel. Depuis, des milliers de Comoriens de tous les âges ont péri en mer en tentant de rejoindre les îles de Mayotte. Chaque année, plusieurs centaines d'embarcations sont interpellées en mer par les vedettes et hélicoptères du dispositif policier et militaire mis en place. Empêchées de pénétrer sur le sol maoré, les personnes migrantes sont contraintes d'emprunter des routes toujours plus longues et toujours plus dangereuses. La surpopulation des lieux d'enfermement pour les migrants est à Mayotte colossale, plus du double de la capacité d'accueil théorique. Sur les tableaux des lieux de rétention, les numéros des obligations de quitter le territoire défilent de jour en jour, voire d'heure en heure. Certains migrants sont ainsi expulsés sans passer par la case rétention, ni bien sûr par la case justice. Plus de 20 000 adultes, 5 500 enfants ont été expulsés vers les autres îles des Comores au cours de l'année 2014. Alors, il faut savoir que le minimum des droits qui sont accordés aux migrants ne sont que très rarement respectés en Outre-mer, où il y a un régime dit dérogatoire. Les migrants ne peuvent même pas avoir un simulacre de défense de leurs droits en face d'un juge. Alors on dit que c'est à cause de la disponibilité ou de l'éloignement des magistrats et des lieux de justice. En Guadeloupe, en Martinique, beaucoup viennent d'Haïti, de la République dominicaine. Voilà, alors je vous invite à vous intéresser un peu à ce qui se passe du côté de cette île de Saint-Domingue, où on sait que les conditions sont là encore catastrophiques. En Guyane, beaucoup viennent aussi d'Haïti, de République dominicaine, mais aussi de l'autre côté des fleuves Maroni et Oyapak, c'est-à-dire du Suriname ou du Brésil. En métropole, parmi les indigènes, les étrangers indésirables, quel lapsus, on dénombre beaucoup de Tunisiens, 15% d'entre eux, de Marocains pour 10%, d'Algériens pour 9%, mais aussi d'Albanais pour 9%, de Roumains pour 8%. À eux seuls, les Albanais représentent 14% des personnes expulsées depuis la France métropolitaine, ce qui en fait la nationalité la plus rejetée hors de l'Hexagone en 2014. Pourtant, on parle rarement des Albanais. Et la plupart des Albanais arrêtés tentaient de se rendre au Royaume-Uni. Ils ont été interpellés dans la triste ville de Calais. Alors, revenons maintenant du côté de Marseille. Marseille, où on nous dit que 90% de la population de la ville serait d'origine étrangère. Et bien à Marseille, en 2014, c'est 1831 personnes qui ont été enfermées au centre de rétention du Canet. 70% de ces personnes venaient du Maghreb, c'est-à-dire avec la nationalité tunisienne, algérienne ou marocaine. Beaucoup ont aussi identifié comme venant de Roumanie, du Sénégal, de Turquie, d'Égypte, des Comores, de Palestine ou du Mali, et j'en passe. 67% d'entre eux ont été arrêtés lors d'un contrôle d'identité. 19% ont été arrêtés à leur sortie de prison, 6% lors d'un contrôle à la gare ou encore 3% sur leur lieu de travail. 40% sont ressortis du centre de rétention libre. la moitié à cause de l'expiration du délai de rétention, qui est fixé à un maximum de 45 jours. 3% d'entre eux ont été assignés à résidence. Et soit 53%, soit près de 1000 personnes, ont été expulsées. Seules 6 d'entre elles ont réussi à s'évader du centre de rétention du Canet en 2014. Au moment d'être expulsées, 22 personnes ont signifié leur refus d'embarquer, lequel peut être poursuivi pénalement et mené directement à la case prison. Et il faut savoir qu'au 1er janvier 2014, 18,5% des personnes écrouées étaient de nationalité étrangère. Ce surcroît de la part des étrangers sous écrou par rapport à la part des étrangers dans la population française, qui est estimée à 6%, s'explique d'une part par l'existence de délits relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers. Il s'explique aussi par certaines pratiques résultant de la loi et des tribunaux, comme cette nécessité d'avoir des garanties de représentation. Il s'explique également par l'appartenance d'une part importante de la population étrangère aux catégories sociales les plus défavorisées, celles qui sont surreprésentées en prison. Et enfin, il s'explique par le racisme systémique de la police et de la justice française, puisque les personnes de couleur, qu'elles soient étrangères mais aussi françaises, sont également beaucoup plus nombreuses dans les prisons. Et si beaucoup d'étrangers sont écroués sans papier, certains sont aussi en situation régulière au moment de leur interpellation, mais elles n'ont que rarement la possibilité de faire leur démarche administrative en prison. Elles se retrouvent donc clandestines à leur sortie. À l'intérieur des prisons, peut-être encore plus qu'à l'extérieur, la maîtrise écrite de la langue française est la condition pour faire valoir les maigres droits qui nous sont accordés. Il faut savoir qu'au Beaumet, par exemple, le service des greffes communique systématiquement avec la police au moment de la libération d'une personne étrangère en situation irrégulière. Celle-ci peut donc à nouveau se retrouver enfermée, mais cette fois-ci en centre de rétention, en attente de son expulsion, de son assignation à résidence ou d'une libération éventuelle, mais toujours avec un certain sursis, c'est-à-dire en attendant les prochains ennuis.
j'ai eu envie de dire quelques mots sur les images fixes des médias, les photographies de guerre et de paix, en tout cas de commerce toujours, de ces chacals de journalistes. Et surtout, je voulais parler du pouvoir qu'ont sur nous ces images qu'on voit tous les jours, qu'on le veuille ou non, parce qu'elles nous tombent sous les yeux sans arrêt. C'est partiel, parce que je mets de côté le mouvement de la vidéo, les textes qui accompagnent le plus souvent ces images, et leur support de diffusion, journaux, internet, etc. C'est d'actualité, même si c'est pas nouveau. C'est d'actualité parce que ce qu'on appelle l'information, et que j'aimerais mieux appeler propagande, nous impose son rythme. C'est d'actualité parce qu'un enfant syrien est mort noyé en Méditerranée, parmi tant d'autres, et que sa photographie prise sur une plage de Turquie a fait le tour de l'Europe ces derniers jours. Alors bien sûr, j'ai pas envie de construire de l'indifférence à cette image ou à d'autres. L'égocentrisme est déjà bien assez répandu dans ce monde. Mais ce que je me demande, c'est quel type d'émotion ça provoque en nous, et quelle marge de manœuvre on a, chacun, par rapport à ça. Parce que j'ai pas l'intention de pleurer avec les loups, et que j'ai l'impression désagréable que c'est à ça que les médias nous appellent sans cesse. La compassion du tyran. Eux d'un côté, les pauvres, les étrangers, les victimes. Et nous de l'autre, ce nous auquel nous sommes censés appartenir avec nos bons sentiments et notre supériorité. La compassion n'est pas l'empathie. La compassion mène à la charité. Et nous voilà qui voulons aider, bien faire, et nous en serons récompensés. Et nous voulons aider, bien faire, comme pour nous racheter. Mais c'est lourd, c'est pesant, cette croix que nous portons. Et nous passerons à autre chose dès que nous pourrons. Et nous n'y penserons plus. J'aimerais bien sortir de cette position confortable de compassion. Bousiller la charité et construire avec les miettes de ce qu'il en restera des formes de solidarité multiples. Une solidarité qui ne soit pas une manière de nous faire une meilleure place parmi ce « nous » dégueulasse d'occidentaux conscientisés, de militants humanistes, de chrétiens qui pavent l'enfer de leurs bonnes intentions. Parce que nous sommes tous directement concernés par cet enfer. Le pire, nous sommes déjà dedans et il est pour tout le monde. Nous n'avons qu'à nous entraider joyeusement ou crever doucement dans l'ennui le plus complet. Donc, les images. Parce que c'est aussi là-dedans qu'on est noyé pour faire du mauvais esprit. D'abord, à la différence du texte, on en a une lecture immédiate. Ça ne demande pas à être décrypté, c'est rapide. Ça nous atteint quelque part, on ne sait pas trop où, du côté de l'affect, et souvent de l'identification. Certains disent que l'image nous empêche de conceptualiser. Bon, je mettrai un petit bémol. L'écrit, de son côté, l'emporte largement en Europe sur pas mal d'autres modes de communication. Et c'est pas comme si l'écrit nous poussait toujours à la dialectique. Bref. Les images, celles des médias et les autres, deviennent souvent des icônes, au sens large, c'est-à-dire des représentations symboliques, réductrices, orientées. Par exemple, les cartes de géographie sont des images pieuses, des images au sein d'une religion qui est une religion de la nation. La carte ne questionne pas l'existence de la frontière. Ici, sur les cartes, non seulement l'Europe est placée au centre, mais surtout n'importe quelle planisphère met l'Occident en haut et le Sud en bas, ce qui est bien évidemment une conception théologique du monde et sûrement pas géographique. Le ciel est dans l'Occident et l'enfer dans le Sud. Il y aurait d'autres exemples. L'école, notamment, fait une consommation considérable de cette sorte d'image, basée sur l'opposition entre le bien et le mal. L'illustration des manuels d'histoire, la personnification des méthodes d'apprentissage de la lecture et bien sûr, les mémorables bons points. Bien au-delà de l'institution scolaire, c'est tout notre rapport à l'image qui est pris dans cet héritage religieux. L'image pieuse a cette particularité, elle sort du domaine de l'argumentation et entre dans celui de la manipulation. La qualité de l'image séduit, le discours exposé est soi-disant pur, sans contradiction interne, il fait autorité. de ce qui est sacré, pas de remise en question possible, pas de critique. L'image crée une confusion entre l'illusion et la réalité, et c'est parfois pas facile de trouver les ressources pour se souvenir qu'elle est forcément incomplète, qu'elle est une construction. La photographie n'est pas la trace objective qu'elle prétend être. Chaque image, c'est des choix, une prise de position. Déjà le cadrage, ça raconte quelque chose sur le point de vue de celui qui appuie sur le bouton. Le contexte aussi, comprendre comment les images ont été fabriquées, à destination de qui et pourquoi. La photographie est reproductible à l'infini et l'image doit pouvoir se vendre. Et ça, ça oriente considérablement le choix des sujets. Dans ces images médiatiques, un peu comme dans les westerns, tous les ressorts de l'émotion sont utilisés. On y retrouve des figures, existantes mais caricaturées pour l'occasion. Figures du malade, de l'enfant, du miséreux. Souvent, la victimisation ne laisse pas trop de place pour penser des êtres qui agissent, qui se démènent, qui se révoltent. L'image, c'est bien fait, déclenche des émotions que nous ne pouvons pas contrôler. Elle rapproche des choses lointaines. On n'arrive plus à tenir le fameux « loin des yeux, loin du cœur ». Donc, il y a le moment où tout le monde doit pleurer, suivi de près par le moment où tout le monde doit oublier. L'opinion publique, c'est comme le roseau. Elle se renverse, mais elle ne rompt pas. Et c'est bien ça le problème. Nous passons donc gaiement jour après jour de l'indignation au soulagement, de l'effroi à l'indifférence, et rebelote. Les liens de cause à effet sont submergés par le flot. L'émotion se sépare de la logique, les médias nous inondent d'épiphénomènes, toujours éloignés de leur contexte, du système qui les fait exister et tenir. L'empathie n'est plus que cette sorte de contagion émotionnelle, aussi brève qu'envahissante. Et puis il y a la peur, le number one des affects qui rapporte. La peur de perdre quelque chose en particulier. Son boulot, son statut, ses petits privilèges. Entretenir l'anxiété par la violence s'il le faut, certains en font un métier. La menace a de nombreuses facettes interchangeables. La montée du FN et la montée des eaux suivent la courbe du chômage. La crise est permanente. Et ce qui est encore plus tordu, c'est qu'ils nous ont foutu la peur de nous-mêmes, de ce dont nous sommes capables, le pire, a priori. C'est en nous, c'est comme ça, c'est la nature humaine, disent-ils, qui est maudite. Là encore, puisque c'est de l'ordre du sacré, qu'il en soit ainsi. Remettons donc nos vies entre les mains de ceux qui parviennent à domestiquer ce qu'il y a en nous de plus brutal. Pendant ce temps, derrière l'image, il y a tout ce que nous ne voulons pas voir. Ce que nous ne voulons pas voir, c'est par exemple que l'armée française a trouvé une bonne occasion de légitimer ses bombardements en Syrie. Ça fera de belles images, sans doute. La question, c'est ce qu'on en fait. Peut-être qu'on peut déjà essayer de mieux comprendre les ressorts de l'émotion, pour nous-mêmes. De relier l'affect à l'analyse critique. De travailler sur nos images mentales. Non pas dans une volonté de maîtrise complète de ce qui nous atteint, mais pour pouvoir agir. Avec ou contre, réagir. L'histoire, comme la photographie, semble reproductible à l'infini. Peut-être qu'on peut déjà essayer de sortir de cette répétition incessante.
Arbus, fırfış, خلك رايق أرجوز بيه مش مدكم ضايق أرجوز بيه مش خليك رايق أرجوز بيه مش مدكم ضايق فكر واجدح في أعمالك فكر واجدح في أعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كل سعادة حلوة جميلة أرجوز بريد مش خليك رايق أرجوز بريد مش مدكم ضايق فكر وابدح في أعمالك فكر وابدح في أعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كل سعادة حلوة جميلة
que, à part le choix des images, les médias, les politiques, les organisations humanitaires et même les militants choisissent aussi leurs mots. Et ils emploient généralement un langage commun pour parler des personnes qui immigrent vers l'Europe. Ainsi, depuis quelques semaines, l'injonction nous est faite de parler de réfugiés plutôt que de migrants. Pourtant, ces termes ne regroupent pas les mêmes situations, ni les mêmes statuts juridiques. La sémantique, l'emploi de termes plutôt que d'autres, permet, en termes de droit et de politique migratoire, de définir des catégories bien distinctes, et ainsi de procéder au tri des personnes concernées. Les termes employés correspondent généralement à des statuts juridiques, à des titres de séjour, qui n'ont pas la même durée de validité et n'accordent pas les mêmes droits. Ainsi, si l'on se renseigne dans les glossaires officiels, comme ceux de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ou du ministère de l'Intérieur, on apprend qu'un immigré, est une personne née étrangère dans un pays étranger qui vit en France. Il peut être clandestin ou avoir un titre de séjour ou de résidence, mais aussi obtenir la nationalité. La loi distingue la nationalité dite par acquisition de la nationalité dite par attribution. Cette dernière est accordée automatiquement aux Français dits de naissance, parce qu'ils sont nés d'au moins un parent français. Par contre, si l'enfant naît en France, mais de parents étrangers, la nationalité n'est pas attribuée, elle s'acquiert. Nuance. Pour les immigrés, qui ne sont pas nés en France, mais qui y résident, il est possible, en théorie dirons-nous, puisque les conditions se durcissent toujours plus, de demander la nationalité par acquisition, ce qui est aussi appelé une naturalisation. Mais il faut pour cela faire preuve d'intégration dans la société française, maîtriser sa langue, ses valeurs, avoir un casier judiciaire vierge et remplir tout un tas de conditions. Un étranger, nous dit-on, est une personne n'ayant pas la nationalité française, mais qui se trouve sur le territoire français. C'est un terme juridique précis qui repose sur cette notion de nationalité. Est étranger celui qui n'a pas la nationalité française. N'en déplaise aux nationalistes et à la plupart des juges, des journalistes et des politiciens, un immigré naturalisé n'est donc plus un étranger, même aux yeux de la loi, enfin en théorie. Le terme migrant, quant à lui, désigne la personne qui arrive sur le territoire. C'est en fait le seul terme à définir une situation et non un statut juridique. Néanmoins, les institutions internationales distinguent parfois ce qu'on appelle les migrants temporaires, qui sont donc voués à repartir, des migrants permanents, qui ont eux vocation à rester sur le territoire où ils immigrent. Le terme réfugié, quant à lui, désigne par contre une situation juridique précise. C'est un statut qui est accordé sous de nombreuses conditions contraignantes aux personnes qui craignent d'être persécutées dans le pays dont elles ont la nationalité. Sur le plan international, le terme est défini par la Convention de Genève. En France, le statut de réfugié est accordé par l'OFPRA, qui deviennent donc titulaires d'une carte de résident de 10 ans, qui porte la mention « réfugié ». Là encore, donc, les conditions d'obtention de cette carte, de ce titre de séjour, ne cessent de se durcir. La protection subsidiaire, quant à elle, est accordée aux personnes qui ne répondent pas à cette définition du statut de réfugié, mais dont on considère qu'elles encourent des risques sérieux dans leur pays d'origine, comme la peine de mort, la torture, ou toute menace grave résultant, je cite, « d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». Ces personnes se voient accorder un titre de séjour d'un an, renouvelable, portant la mention « vie privée et familiale ». Un apatride, c'est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Il peut se voir attribuer une carte de séjour d'un an, portant de même la mention « vie privée et familiale ». Et ensuite, éventuellement solliciter la délivrance d'une carte de résident. Le terme de demandeur d'asile, quant à lui, correspond également à un statut juridique, qui signifie que le dossier de la personne est en cours d'étude par l'administration. Ils peuvent, en attente de la décision, être placés sous ce statut de protection subsidiaire ou celui de réfugié. En France, le droit d'asile existe depuis la Constitution de 1793. La plupart des demandes d'asile ne sont pas accordées. Les personnes peuvent donc se retrouver, après avoir été demandeurs d'asile, à nouveau dans la clandestinité. Mais la plupart du temps, elles sont directement expulsées. Le terme « visiteur », quant à lui, désigne ces étrangers qui sont en possession d'un titre de séjour d'un an, mais qui ne peuvent vivre que de leurs seules ressources et qui s'engagent à n'exercer aucune activité professionnelle. Les termes « migration professionnelle » ou « migration de travail », à l'inverse, correspondent au statut des personnes qui rentrent directement sur le marché du travail, les saisonniers par exemple, et qui se voient donc accorder des titres de séjour temporaires, uniquement dans l'objectif de les salarier. L'étudiant étranger suit lui un enseignement ou des études à titre principal et doit justifier de ressources suffisantes pour obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Sa durée de validité d'un an peut être renouvelée pendant la période qui correspond à la durée des études. L'immigration dite familiale désigne les étrangers qui obtiennent des titres de séjour pour raisons familiales, souvent dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Enfin, pour finir avec ce glossaire, on y reviendra lorsqu'il sera question des réformes à venir du CDSA, donc le Code du droit des étrangers. Notons qu'il existe une carte de séjour dite « compétences et talents ». Elle a été créée en 2007. Elle peut être accordée à un étranger, je cite, « susceptible de participer du fait de ses compétences et de ses talents de ses talents de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et du pays dont il a la nationalité. Ce titre de séjour, qui est accordé pour une durée de 3 ans renouvelable, correspond complètement à la notion d'immigration choisie. Cette manœuvre coloniale visant à exploiter en France des personnes parvenues à un certain niveau de diplôme ou de compétences, notamment sportives, dans leur pays d'origine. Les termes employés, tout comme les statuts juridiques qui y correspondent, participent donc pleinement à cette grande opération de tri que sont les politiques migratoires. Il s'agit de séparer les bons citoyens de ceux de seconde zone et des indésirables qui, eux, seront rejetés. Séparer ceux qui seront exploités légalement, parce que leurs compétences intéressent l'économie européenne, de la main-d'œuvre illégale, bon marché, tout aussi intéressante pour les patrons. Séparer, catégoriser pour mieux contrôler. Les critères du droit, les termes juridiques ne valent à mon sens guère mieux que les critères raciaux jadis utilisés pour séparer l'humanité en plusieurs catégories. Reste donc aux individus concernés de s'auto-définir avec leurs propres termes.
Ouais, donc du coup, moi, je vais en remettre une couche. C'est un peu l'idée. Et du coup, je parle d'une lettre commune intitulée « Lettre sur l'accueil des réfugiés » qui a été signée par Angela Merkel et François Hollande, où Angela Merkel et François Hollande donnent d'emblée le ton. Dès le deuxième paragraphe, en effet, ils distinguent parmi les migrants ceux qui, je cite, « fuient la guerre et les persécutions » de ceux qui tentent d'améliorer leurs conditions matérielles par des voies irrégulières. L'urgence, selon eux, c'est de pouvoir ouvrir, d'ici la fin de l'année, des dispositifs d'accueil, dits « hotspots », centres de tri façon La Poste, mais pour les migrants. Les migrants estampillés réfugiés continueront leur route en Europe. Pour les migrants estampillés migrants économiques, ça sera retour à la case départ, dans la dignité, est-il précisé dans cette lettre. Et ainsi, l'Europe aura bonne conscience. Cette distinction, sujet de nombreux articles dans les journaux et de nombreux commentaires des politicards, m'amène à cette question. Et si le petit Eylan, retrouvé mort sur une plage turque, était venu non pas de Syrie, mais d'un pays décrété sûr par le Conseil d'État? Si le petit Eylan avait été non pas un réfugié, mais un migrant économique? Car n'en doutons pas, aujourd'hui, la semaine dernière ou le mois dernier, un enfant sénégalais ou nigérian s'est noyé dans la mer Méditerranée. Mais il semble que la mort de cet enfant n'interroge pas autant notre humanité que celle d'un enfant syrien. On voit bien ici à l'œuvre le classique « diviser pour mieux régner », qui met d'un côté les bons migrants, qu'il convient d'aider, et de l'autre les mauvais, qu'il convient de renvoyer dans leur pays d'origine. Mais je me demande si finalement la réalité n'est pas plus cynique encore. Parce qu'on nous dit des Syriens qui fuient la Syrie qu'ils sont issus majoritairement des classes moyennes ou dominantes. On nous dit que les Syriens pauvres, eux, meurent sous les bombes là-bas, en Syrie, parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer le voyage. Par ailleurs, on ne vient en aide à ceux qui ont réussi à fuir qu'une fois arrivés à Vienne ou à Berlin, pas avant. Ni Hollande, ni Merkel, pourtant si promptes à exprimer ô combien ils sont humains, n'ont suggéré de suspendre l'obligation de visa pour les Syriens souhaitant se rendre en Europe, leur permettant ainsi, en rejoignant Beyrouth ou Istanbul, de venir avec un simple avion charter pour une ou 200 d'euros par personne. En attendant ainsi que les migrants arrivent par leurs propres moyens jusqu'en France, en Allemagne ou en Autriche, en les contraignant à payer des fortunes aux passeurs, on sélectionne deux faits. D'abord, des personnes jeunes et en bonne santé, parce qu'il faut être jeune et en bonne santé pour survivre à la traversée. Mais aussi bien souvent des personnes issues des classes moyennes, et donc éduquées, formées, souvent polyglottes, des médecins, des infirmières, des profs, des cadres, des travailleurs prêts à travailler dans des métiers qualifiés, mais pour un salaire moindre. Bref, de l'immigration choisie, selon l'expression de Sarkozy il y a quelques années, ou selon les termes employés la semaine dernière par Emmanuel Macron, une opportunité économique, car ce sont des femmes et des hommes qui ont aussi des qualifications remarquables. Les autres, les pauvres, les illettrés, les malades, resteront sous les bombes. Ou s'ils y parviennent, pourront vivre une vie de clandestin en Europe, exploités dans l'arrière-cuisine des restos, risquant leur vie et leur santé, sans protection sur des chantiers esclavagisés dans des exploitations agricoles. Sous couvert d'humanité et de valeurs universelles, l'Europe capitaliste réussit ainsi une équation parfaite. Des employés qualifiés déjà formés, avec des papiers, pour lui permettre de mettre à mal les acquis sociaux des classes moyennes européennes. Et des travailleurs non qualifiés, sans papiers et criminalisés, pour continuer à faire pression sur les salaires et les droits des ouvriers et des travailleurs de la construction, de la restauration, des services à la personne, etc.
Le gouvernement a entériné fin juillet une réforme du droit d'asile qui va encore aggraver la situation pour les demandeurs d'asile. Cette réforme a été promulguée le 29 juillet. Elle entrera en application progressivement jusqu'au 1er novembre. Le gouvernement a également lancé en procédure accélérée une réforme sur le droit des étrangers adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 24 juillet. Ces deux réformes vont durcir l'accès au droit d'asile et la possibilité d'obtenir une régularisation. Elles vont encore augmenter les moyens législatifs et coercitifs de l'État pour accélérer les refus et intensifier les expulsions, quand le gouvernement préfère parler par euphémisme d'éloignement. La nouvelle réforme de l'asile, c'est avant tout la création d'une nouvelle procédure accélérée pour les demandeurs d'asile qui remplace la procédure prioritaire qui existait jusqu'à présent. Cette nouvelle procédure accélérée prévoit désormais qu'en cas de refus de l'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, est suspensif de l'expulsion. Mais le délai de préparation de l'appel est expéditif. Moins de 5 semaines désormais, contre plusieurs mois jusqu'à maintenant. Ce qui pouvait davantage permettre, bien sûr, de préparer, réunir les preuves, les documents. La nouvelle loi prévoit par ailleurs une dizaine de situations, notamment le fait de provenir d'un pays considéré par l'OFPRA comme un pays sûr, le fait de s'être adressé tardivement à la préfecture ou encore d'avoir dissimulé son itinéraire avant d'arriver en France, dans lequel les demandeurs passeront désormais d'office par cette procédure expéditive. En plus de ces situations désormais prévues dans la loi, le pouvoir de contraindre une personne de passer par cette nouvelle procédure accélérée, défavorable aux demandeurs donc, n'appartiendra plus au seul préfet, mais l'OFPRA aura également ce pouvoir. Ainsi, de manière arbitraire, l'administration pourra considérer, de prime abord et sans entretien, que la demande d'asile présentée par telle ou telle personne ne semble pas sérieuse, et donc la traiter selon cette procédure. Cette procédure accélérée est d'ailleurs destinée, selon le ministère, à concerner davantage de demandeurs que l'ancienne procédure prioritaire. La loi crée également des cas d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile. La loi agrandit par exemple la liste des personnes à qui il est désormais impossible de voir leur demande d'asile accordée, notamment au titre de la protection subsidiaire qui ne sera plus accordée si la personne a par exemple commis des délits ou des crimes susceptibles de prison en France ou si la personne a quitté son pays pour échapper à une sanction pénale. La réforme prévoit également la création de centres d'hébergement directifs pour les demandeurs d'asile, qui sont concrètement conçus, selon la présentation du ministère de l'Intérieur, comme un dispositif d'hébergement contraignant, ayant pour but d'affecter le demandeur d'asile dans une autre région que celle où il se présente. Le but est ainsi de répartir les demandeurs d'asile pour désengorger les administrations, empêcher la concentration, c'est-à-dire pour éparpiller sur le territoire et ainsi limiter la visibilité de ces étrangers indésirables. Ces centres d'hébergement directifs sont en fait une assignation à résidence, à peine déguisée, puisque les demandeurs d'asile qui renoncent à un hébergement ou abandonnent le lieu qui leur a été attribué ne percevront plus d'allocation. Pour que les migrants acceptent ces centres contraignants, l'État joue donc du système de la carotte. Un hébergement, une allocation, équivalente à 11,45 € par jour, soit environ 300 € par mois pour une personne seule, et du bâton, la perte des avantages matériels en cas de refus. On le voit bien, le cadeau a un paquet bizarre. En souhaitant confiner dans ces centres de demandeurs d'asile, l'État entend contrôler les migrants, en empêchant l'intégration et la création de contacts, de liens de solidarité. Les demandeurs d'asile sont par ailleurs interdits de travailler. L'objectif est de pouvoir, une fois tous les recours juridiques épuisés et dans des délais désormais accélérés, rapidement exécuter l'expulsion et que celle-ci soit le moins visible possible. En application des directives européennes, les demandeurs d'asile pourront désormais être assistés d'un avocat ou d'un représentant d'une association habilitée devant l'OFPRA. Pour le moment, il s'agit uniquement de forums réfugiés de l'Ordre de Malte et de 2 associations lesbiennes. L'objectif principal affiché par le gouvernement avec cette nouvelle réforme est donc la réduction des délais. Ainsi, les objectifs affichés de durée de traitement d'une demande, du dépôt jusqu'à épuisement des recours, sont de 3 mois pour une demande d'asile en procédure accélérée et de 9 mois en procédure normale, contre à peu près 2 ans aujourd'hui. Le délai de jugement d'une obligation de quitter le territoire français, le QTF, passe également de 5 mois à 1 mois. Pour pouvoir respecter ces délais, le gouvernement annonce que des recrutements vont être opérés. La logique, c'est toujours la même. Accélérer par tous les délais, pour aboutir le plus rapidement possible à l'épuisement des recours juridiques, afin de pouvoir procéder à l'expulsion, à de plus en plus d'expulsions. Thank you. a donc une autre réforme concernant le droit des étrangers qui est actuellement en discussion au Parlement. Cette réforme-là vise trois objectifs, selon toujours le gouvernement. Premièrement, il s'agirait d'améliorer l'accueil et l'intégration des étrangers régulièrement admis au séjour. Cela doit passer par la délivrance d'un titre de séjour dit pluriannuel, 3 ans renouvelable, au bout d'un an de présence sur le territoire. Cela a pour objectif d'éviter les passages répétés en préfecture, et donc de libérer des moyens pour les affecter à de nouveaux contrôles. La délivrance de ce titre pluriannuel est en fait associée à des exigences plus importantes, en matière de maîtrise de la langue française notamment. Il est fort probable que la délivrance de ce titre se fasse par ailleurs au détriment de la délivrance de la carte de résident, valable elle 10 ans, et qui n'est donc plus qu'une simple possibilité pour l'administration. La carte pluriannuelle étant renouvelable, mais bien sûr selon le respect de certaines conditions. Le deuxième objectif affiché par cette réforme, c'est de renforcer l'attractivité de la France, en facilitant la mobilité des talents internationaux. Selon donc la logique coloniale d'immigration choisie, en fonction des besoins en main-d'œuvre ou en compétences spécifiques du patronat ou de l'État, et afin de renforcer la position de la France dans l'accueil des mobilités internationales de l'excellence, de la création et de la connaissance, le gouvernement crée donc un passeport talent, compétences et talents, titre de séjour valable jusqu'à 4 ans pour l'étranger et sa famille, destiné à être un titre unique, ouvert aux investisseurs, aux chercheurs, aux artistes et aux salariés qualifiés. Troisièmement, il s'agit enfin de lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière. Ainsi, selon le communiqué du gouvernement, l'assignation à résidence va devenir la mesure de droit commun en matière de privation de liberté des étrangers. En fait, le ministre Cazeneuve ayant annoncé mi-juin que les places de rétention dont dispose l'État devraient être utilisées à plein, effectivement, en général, ils sont même plutôt surpeuplés, les centres de rétention, le gouvernement de la sorte anticipe et multiplie en fait le nombre d'étrangers qu'il peut maintenir sous la contrainte en attendant de les expulser. Et alors que l'enfermement en centre de rétention administrative ne peut légalement pas dépasser 45 jours, l'assignation à résidence, donc l'obligation de vivre au domicile connu de la préfecture, obligation de pointage tous les jours au commissariat et interdiction de circuler hors d'un territoire délimité, est-elle de 45 jours renouvelable une fois. Elle peut donc aller jusqu'à 3 mois. Par ailleurs, les audiences du juge administratif en visioconférence depuis les CRA sont désormais totalement instituées. Quant au régime spécial très défavorable des migrants des départements d'outre-mer, d'où plus de la moitié des expulsions sont réalisées dans des conditions, on l'a vu, les plus abominables possibles, il est totalement maintenu. Les migrants n'ont donc toujours pas les mêmes droits selon s'ils se trouvent sur le territoire français, d'outre-mer ou en métropole. Enfin, le projet de loi crée un droit de communication qui donne au préfet le pouvoir de demander, et sans que s'y oppose le secret professionnel, des informations sur les personnes demandant ou possédant un titre de séjour auprès de toutes les institutions suivantes. Il s'agit des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, des établissements de santé, des banques et des organismes financiers, des fournisseurs d'énergie et des services de communication électronique, de Pôle emploi, des services d'état civil, de la sécurité sociale et des tribunaux de commerce. Ainsi, profs, banquiers, secrétaires, médecins, etc. sont appelés à participer. Ce n'est ni plus ni moins qu'une obligation de collaboration à la politique raciste de contrôle, de traque et d'expulsion des étrangers pour les salariés des entreprises et pour les agents des services de l'État concernés. Par ailleurs, selon un amendement approuvé lors de l'examen en première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale, les déboutés du droit d'asile, les étrangers ne pouvant donc justifier d'une entrée régulière en France, ou les étrangers s'étant maintenus au-delà de la durée de validité de leur visa, ou qui n'ont pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour, n'ont désormais plus que 15 jours pour contester devant le tribunal administratif leur décision d'éloignement, contre 30 jours auparavant pour les expulsions. Et pour les autres expulsions également. Le tribunal administratif n'aura désormais plus que 6 semaines pour statuer au lieu de 3 mois. L'article 8 doit en outre autoriser le préfet à contrôler à tout moment que l'étranger qui dispose d'un titre de séjour continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de cette carte. S'il ne peut le justifier, ou s'il ne se rend pas à sa convocation, la carte de séjour peut lui être retirée immédiatement. Enfin, les forces de police ont désormais la permission d'interpeller les migrants à leur domicile, ainsi qu'au sein même des structures d'hébergement. En clair, c'est en sursis permanent que vont se retrouver et toutes les étrangers, les étrangères, y compris les étrangers et les étrangères en situation régulière. Surveillance et suspicion sont donc les mots-clés de ces réformes qui renforcent considérablement les moyens de contrôler, de sanctionner, d'enfermer et d'expulser.
Annoncer les permanences du collectif de sans-papiers qui se tiennent à Mille-Babord. Donc le premier et le troisième lundi de chaque mois de 9h à midi, c'est au 61 rue Consola.
Où, c'est a priori plutôt
soutien juridique.
Enfin. Voilà, et c'est un peu la rentrée au kiosque au 38 rue Clovis Hugues, et du coup, notamment, il y a des cours de français qui ont repris. Et c'est donc tous les mardis à 18h30 et tous les samedis à 11h. Voilà pour l'agenda de ce qui se passe à Marseille. Et, et voilà. Une dernière petite musique.
في بلاد الكرة انا بطوفي العشوص يا صاحبي عاش حياته الكل كلاندو نابل طايفة طاي عالماية بلاد الكرة باي باي ونسي كلاندو في بلاد الكرة انا بطوفي العشوص يا صاحبي عاش حياته الكل كلاندو هاي هاي كلاندو اي 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 اي
ساكت يمكتم في قلبي هكا نادم يشوف فلاش الماضي كي الاحلام اليوم حرتك على سكاتي ما صبرت يومي والله حرتك في بلاد الناس تقر خايف لنرجع لبلادي جيبي فارغ بلاسي خايف لنقابل اصحابي وذكر في فمي بريسي خايف لنرجع اكسبلسي خليني بوندي خليني نبات على اللوطة وحدي في بلاد الناس عايش ننسي كونطاني عايش ستريسي ما تقول لحد عيش دي قوتي بين عباد قدام الماني ما تعرف حد بين القطعي واللي ماشي تحت حيط واللي جاي تحت ترام وتمد بربي فيزي الدنيا ولات شد مدي احمد الجبال تتهد نتذكر كل دمعة كل شمعة اليوم تفات فدي يا عيني ما تركي سنين اتعدات هزت عقل ومشى وفات عليه الفوت وعمره فات
كلاندو في بلاد الكرة انا بطوفي العشوص يا صاحبي عاش حياته الكل كلاندو نابل طايفة طاي عالماية بلاد الكرة باي باي تونسي كلاندو في بلاد الكرة انا بطوفي العشوص يا صاحبي عاش حياته الكل كلاندو هاي هاي كلاندو اي 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 اي
في بلاد الفرنس مش مرتاح سم تسال احسن مزموم سم قدام كتف في السنسن كله كلام في كلام تعيش كل يوم بلا وهم تنسى روحك تنسى الاحلام تفق في دلام عندي بروبلام في الدنيا القحط شكل عام في بلاد صح كله بان دوبل بان مدام كلاندو تعيش في ديلاكونس دلام عيش ستريس مان تجيب الفلوس تعيش لاباس غاز بيمان تخا 75 نوف كار عيش اخت كور سموك سيست كيت ويل دي بلاد صح ممنون قالح بولور ايسي تومور في بلاد صح كور تحب تعمل باكو باكو تحب تولي كابو ايوا مي فوك تي بونس تا مور في الغور تسويش عالشانس في بلاد الناس حلال ولا حرام يا مان فو سيزيغ لي كونسيكونس يا مان فو سيزيغ لي كونسيكونس يا مان بو 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 بو
كلاندو في بلاد الكرة انا بطوفي العشوص يا صاحبي عاش حياته الكل كلاندو نابل طايفة طاي عالماية بلاد الكرة باي باي تونسي كلاندو في بلاد الكرة انا بطوفي العشوص يا صاحبي عاش حياته الكل كلاندو هاي هاي كلاندو كلاندو في بلاد الكرة انا بطوفي العشوص يا صاحبي عاش حياته الكل كلاندو نابل طايفة طاي عالماية بلاد الكرة باي باي تونسي كلاندو في بلاد الكرة انا بطوفي العشوص يا صاحبي عاش حياته الكل كلاندو هاي هاي كلاندو اي 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 ا